à tous. À 6 semaines des élections européennes, France Culture a organisé samedi dernier son 3e forum de l'année avec la Sorbonne. Toute la journée sur l'antenne, retrouvez les tables rondes qui ont animé cette journée. Et à partir de 12h55, notre dialogue de clôture avec l'écrivain Laurent Godet. L'Europe, tout un poème, c'est la forme choisie par le prix Goncourt 2004. Faire le récit de cette histoire commune qui nous lie. Une histoire de muscles, de verve, de ferveur, de colère et de joie. Dans nous, l'Europe, banquet des peuples, apparaître chez Actes Sud le 1er mai prochain. Mais d'abord, Sylvie Testu, en terre inhospitalière. Elle est surtout au centre d'Éden, une série sur la crise migratoire diffusée les 2 et 9 mai sur Arte, réalisée par Dominique Moll. Et elle est tout de suite notre invitée, à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Éden, une série sur la crise migratoire réalisée par Dominique Moll, une série tournée aux quatre coins de l'Europe qui suit la trajectoire de plusieurs personnages sans manichéisme, avec humanisme. Sylvie Testu en est l'une des comédiennes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Éden, une série chorale qui multiplie donc les points de vue, ceux de Hamar et son frère Daniel, hébergé dans le camp grec de réfugiés dirigé par Hélène, que vous incarnez. Les gardiens du lieu aussi, Alexandros et Yanis, ceux d'une famille d'Allemands, de Mannheim, qui de retour de leurs vacances en Grèce décident d'héberger un jeune Syrien, Bassam. À Paris, il y a aussi Ahmad et Mariam, qui font une demande d'asile politique. C'est un sujet sensible, celui de la crise migratoire, comme on dit, de la question des réfugiés, un sujet qui n'est pas si facile à traiter au cinéma ou en télé.
Oui, c'est un sujet sensible parce que tout le monde a une sorte d'idée, en fait, soit guidée par la peur, soit celle qui est guidée par le fantasme d'une humanité flamboyante qui s'emparerait d'eux. Ce qui était difficile, en fait, je crois, dans l'élaboration de cette série, c'était d'essayer de ne pas soit d'un côté donner une leçon, soit d'être démagogue, soit d'avoir l'impression que les choses ne sont pas si lourdes, si graves, et qu'en fait, finalement, ça finit par poser une question qui me semble encore plus générale, c'est, en fait, on en est où de nos relations humaines, les uns avec les autres? On en est où de comment on se considère les uns par rapport aux autres? On en est où de cette espèce de classification du genre humain? Il y a ceux pour qui ça va bien et ceux pour qui ça va mal. Ceux pour qui ça va bien se penchent sur ceux pour lesquels ça va mal. Est-ce qu'on doit les en remercier quand ils sont gentils? Est-ce qu'on doit les accuser quand ils ne le sont pas? Est-ce que... Enfin voilà, toutes ces questions, en fait... Je trouve qu'elles sont au cœur de la série presque plus que la décision politique. Et je crois que Dominique Moll, dans le fait d'avoir eu envie de s'emparer de cette série, c'est Arte qui était à l'initiative du projet, je crois que ce qui l'intéressait le plus, c'était de mettre au centre l'humain, avec ses préoccupations, ceux qui ont envie de survivre, et comment nous, en fait, pour qui ça va plus ou moins bien, comment on appréhende ça? Comment on en est arrivé dans notre culture depuis toujours? Le voyage, la rencontre de l'autre, c'est un rêve. Dans tous les écrits, on a ça. On a l'Orient, on a l'Asie, on a l'Amérique. Il y a eu des grands voyageurs. On a toujours essayé d'aller à la rencontre de l'autre. Aujourd'hui, on développe des trucs pas possibles pour aller voir s'il n'y a pas d'autres vivants sur d'autres planètes. Mais quand c'est eux qui arrivent, comment ça se passe? Quand c'est l'ailleurs qui vient chez nous, comment ça se passe? Quand l'ailleurs, en plus, est dans le besoin, comment on donne? On est tous d'accord pour dire qu'on est dans une société hyper mercantile, et on le regrette, on parle du climat, on parle... Mais comment on fait pour partager? Comment on investit le monde aujourd'hui alors que, visiblement, on ne peut plus l'investir de la même façon? Toutes ces questions, elles sont dedans. Et ça n'est pas... une série politique. Ça n'est pas une série qui pousserait à faire de l'humanitaire. Je pense que c'est une série qui dit, regardez, à l'heure qu'il est, sur un même sujet, quelle que soit la personnalité, enfin, on a cinq histoires différentes qui tendent vers la même question, mais qui le vivent complètement différemment.
Voilà, et manichéisme, cynisme, angélisme, vous les évoquiez, ces travers dans lesquels le projet, la série aurait pu rapidement basculer, et il fallait marcher sur ce fil pour réussir à rendre compte d'une réalité qui est, somme toute, très complexe de tous les côtés. Votre héroïne, Hélène, que vous incarnez, qui dirige un camp de réfugiés en Grèce, est-ce qu'elle incarnait pour vous, déjà sur le papier, avant même de l'interpréter à l'écran, toute cette complexité-là?
Oui, je pense qu'elle la représente même. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un pur produit en fait d'une éducation qui tend au commerce, à la finance, à tout ce dont on entend parler tous les jours. Et c'est-à-dire qu'elle est un peu, quelque part, formatée dans une chose où elle appréhende cette question migratoire par des chiffres, par des volumes, des masses de gens et de courbes, de stats. C'est-à-dire qu'on entend souvent, tiens, il y a tant de personnes à Lampedusa, tant, mais on en oublie que chacun a une histoire, que chacun a une problématique. Et en fait, elle se retrouve confrontée, puisqu'elle a décidé, d'ailleurs ça c'était une question, ça m'a bouleversée, je ne savais pas que quelqu'un avait eu l'idée un jour de se dire, tiens, je vais faire une entreprise privée avec un camp pour migrants. Ça déjà, cette première question, je me suis dit, mais est-ce que ça existe vraiment? Donc oui, c'est pas la majorité.
L'idée a existé, mais des camps avec une gestion privée existent aussi?
Existe. Voilà, donc ça a été pas un choc, mais enfin j'ai halluciné, je me suis dit, qui a eu cette idée? Bon, il se trouve que ça marche. Mon personnage, donc, a une sorte de volume, donc, de personnes à gérer, et donc elle va essayer de trouver le volume d'argent adéquat, en fait, pour faire marcher son camp. Donc elle se retrouve à Bruxelles, elle est dans les arcanes du pouvoir, avec des financiers, elle n'est jamais... elle ne se préoccupe jamais ni des gens dont elle s'occupe, ni des gens avec lesquels elle travaille. Et c'est ça qui va lui arriver, en fait, dans son parcours, parce qu'il y a une crise qui va se passer dans son camp. Je peux pas en révéler plus, malheureusement, mais il y a quelque chose, un accident, une crise qui se passe dans son camp. Elle est obligée de regarder en face la vie au moins de deux personnes. Et en investiguant, elle fait aussi la rencontre des gens qui travaillent avec elle. Et elle se rend compte qu'ils ne sont pas ses alliés. Ils ne travaillent avec elle que parce qu'ils ont besoin de travailler. Et que peut-être ils n'envisagent pas les choses de la même façon qu'elle. Et ça, ça la bouleverse. Ce qu'elle n'y avait même pas pensé. C'est une protection quelque part. De se dire, de voir les choses par des chiffres, par des courbes. C'est pour ça que j'ai pas envie de jeter la pierre non plus à des gens qui parlent comme ça en volume de tout et même d'humanité. Mais en fait, il faut quand même se rendre compte que c'est une protection à une peur qui est souvent quelque part mauvaise conseillère. Et c'est son cas, à mon personnage en tout cas.
Cette dimension de la gestion comptable de la crise des migrants, c'est ce qu'on a pu voir dans les arcanes du pouvoir bruxellois, quand chaque pays tentait de se répartir des quotas de réfugiés. Et c'est aussi donc cette réalité-là que la série Eden illustre à sa manière. C'est une série qui s'engouffre dans les failles de la politique d'accueil européenne, dans ses échecs, dans ses faillites. On en écoute un extrait.
Dès qu'on a le feu vert de Bruxelles, on pourra ouvrir trois nouveaux camps en Grèce d'ici à la fin de l'année. Dans la foulée, on s'implante en Italie et on pourra passer à l'échelle supérieure. Mutualisation des coûts d'exploitation et augmentation des bénéfices, tout ça sans renier sur la qualité des prestations. C'est ce qui m'importe le plus.
C'est très prometteur, Hélène. Et si Bruxelles ne donne pas le feu vert?
Bon, il n'y a pas de raison, c'est une attribution directe. Ça devrait bien se passer. Ouais. J'en saurai plus demain, j'ai rendez-vous à Bruxelles.
Michael, t'es sûr que c'est une bonne idée de t'appuyer sur cet ex-collègue?
Bah, c'est ce que tu m'as appris, non? Le marché est en pleine expansion, faut foncer. T'as des doutes?
Non, aucun, tu le sais très bien. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que tu mises tout sur une seule carte. Sans le feu vert de Bruxelles, on peut dire adieu à l'expansion. Et sans expansion, je perds de l'argent.
T'inquiète pas, je sais ce que t'as investi.
Ah, excuse-moi. Oui? Ah, mais j'ai ton avance. Non, c'est très bien. Faites-le entrer. Merci. À propos de l'expansion, il y a quelqu'un que j'aimerais bien que tu rencontres. Tu as entendu parler de Deltan?
Deltan Security?
Exactement. Marc Valser les représente. On s'est rencontrés à l'ICCS à Bruxelles. Tu verras, c'est un garçon brillant, suisse, avocat. Son domaine n'est pas tout à fait le même que le tien, mais il y a des liens possibles. Entrez!
À travers vous, et on l'entend, Dominique Moll filme aussi l'affairisme ambiant, la privatisation de la question des réfugiés. Quel échec des pouvoirs publics, ces acteurs du privé viennent-ils combler d'une certaine manière? À quel prix aussi? On a le sentiment, à travers la situation, le vécu de ce personnage, Hélène, que vous incarnez, que les réfugiés peuvent parfois être aussi perçus, pas simplement comme des chiffres, mais aussi comme une bonne affaire.
Comme une bonne affaire, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est vraiment, là on vient de l'entendre dans l'extrait, on parle d'expansion, donc on est dans la croissance, il y a dans l'investissement, dans le retour sur investissement. C'est vraiment une gestion, finalement, qui est là, qui est faite. Alors, je ne sais pas si c'est désavouer les politiques, mais en tout cas, c'est dire, voilà, moi, je vais faire tout mon possible et je ne vais m'occuper que d'une cause. Ça sera celle-ci. Et de façon privée, et d'ailleurs, vous avez entendu ce qu'il dit, il dit, et moi, je vais perdre de l'argent si jamais tu gères mal. Et donc, en s'occupant donc de ce camp dans la série, on voit en fait qu'ils s'en occupent, mais que jamais on perd à l'esprit le fait qu'il faut avoir quand même des excédents, des dividendes. Il faut quand même, on est entré dans une mécanique quelque part, et même quand on entend les pouvoirs publics parler de subventions, on a toujours l'impression que bon bah voilà, on alloue tant. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? Ça sera dans un deuxième temps. Tout est géré en fait. Un peu comme dans une banque, on a l'impression par instant, c'est-à-dire que tout est géré par en volume de tout. Voilà, on a tel volume d'argent, on va donner tant. C'est toujours des questions. C'est pour ça que la série elle est intéressante, c'est que elle répond pas, elle ne dit pas il faudrait faire ça. D'ailleurs moi non plus. Mais en revanche elle dit c'est quand même dingue que l'humanité s'en retrouve gérée de cette manière-là. Il y a ceux qui décident et ceux qui subiront suivant les décisions qu'auront prises ceux qui décident. Et c'est quand même un endroit. Tout à l'heure hors antenne, vous m'avez parlé d'Alain Badiou qui parlait donc
non hier, pas oui, dans la grande table.
Voilà, non pas de migrants.
Le terme de migrant, puisque lui écrivait les dix migrants.
Mais nouveaux prolétaires nomades.
Nouveaux prolétaires nomades.
Mais en fait, en vrai, on peut. C'est pour ça que c'est très au point de vue humain, on peut le généraliser. Aujourd'hui, quand vous voyez. Vous voyez des agriculteurs qui sont tous endettés, qui n'arrivent plus à faire vivre leur famille et les gens, en fait, alors qu'ils nourrissent. Et avant, la terre était nourricière réellement. Comment on est entré dans une chose tellement financière que finalement, avec une exploitation, même ça, on n'y arrive pas. Donc tout est un peu comme ça. On a l'impression que l'argent n'engendre que de l'argent et que l'humanité, en fait, finalement, se rangera avec ce qui nous restera de disponible.
C'est une fiction qui se veut réaliste, le ton est donné dès la scène d'ouverture avec cette scène réellement vécue par l'un des producteurs et qu'il a donc transposée à l'écran, un canot de sauvetage rempli de femmes, d'hommes, d'enfants qui accostent sur une plage de l'île de Kos en Grèce devant le regard totalement médusé des vacanciers. Les réalisateurs disent qu'ils ont vraiment voulu documenter le hors-champ, raconter la vie d'avant, essayer de comprendre ce qui se jouait dans ces destins, ces trajectoires de migrants ou de réfugiés. Le camp que vous dirigez en l'espèce, c'est une reconstitution, est-ce que c'est un lieu vraiment existant? Et pareil, les acteurs ou les personnes qu'on voit à l'intérieur de ce camp, est-ce que ce sont des figurants professionnels ou est-ce que ce sont vraiment des réfugiés présents dans ce camp?
Alors non.
Parce qu'il y a des expériences comme ça qui ont été réalisées au théâtre avec des sans-papiers, où on a vraiment choisi de déprofessionnaliser aussi les personnes à l'écran.
Je crois que ça aurait été la volonté de Dominique Moll que d'engager des gens qui habitaient le camp, parce que le camp existait. Donc c'est un camp qui est à quelques kilomètres d'Athènes, qui est sur une ancienne base militaire. Et alors déjà, ce qui est étonnant, par exemple, la première fois qu'on se rend dans un camp, ce qui était mon cas, c'est ben y a des grilles en fait. C'est complètement fermé, il y a des grilles, on a le droit de sortir de telle heure à telle heure. Enfin, tout ça est très réglementé. Et de nouveau, on se pose la question, c'est... Mais pourquoi sont-ils enfermés finalement? Ils ont le droit de sortir, mais malgré tout, il y a une grille. Donc, et ça pose, il y a quand même une suspicion, il y a quand même quelque chose. Ils ont, a priori, bon, bah, s'ils bossent, ils se débrouillent. Tout le monde sait qu'ils vont se débrouiller, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, faut. Bon. Mais n'empêche qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc, en fait, on ne peut pas les engager comme figurants. Donc, des figurants extérieurs venaient jouer eux, qui nous regardaient filmer, et qui, je pense, regardaient de temps en temps, mais n'étaient pas si intrigués que ça. Je crois qu'ils n'en sont pas là. Donc, ils étaient très sympathiques. Ils se cachaient volontiers entre les containers, parce que ce sont des containers très, très bien alignés, qui sont côte à côte, et donc que les gens habitent. Et puis, ça forme comme des petites rues. Donc, les gens discutent entre eux, plus ou moins. Ils nous regardaient. Dès qu'on tournait, ils allaient se cacher pour donner la place à d'autres figurants qui n'habitent pas cet endroit. Donc tout ça a été ça pose beaucoup de, enfin on se pose beaucoup de questions à ce moment-là. On se dit mais c'est il y a quelque chose qui pas qui déraille, mais il y a quelque chose où c'est pas normal de se trouver dans cette situation. Si je viens vous voir, je vais pas passer une grille. Pourquoi eux quand je vais les voir, je passe une grille? Donc il y a une suspicion, il y a quelque chose quand même qui est là où on se dit ils ont le droit de sortir. Pourquoi vous mettez une grille, en fait? C'est déjà leur lieu de résidence. Ils vont rentrer et dormir là le soir. Personne ne veut dormir dans la rue. Ça n'intéresse personne.
Dominique Moll filme aussi l'attente d'une situation, d'une reconnaissance légale, d'une deuxième vie. On entend bien et on voit bien que les portes de l'Éden ne s'ouvrent que pour une poignée d'entre eux, ou ne s'ouvrira probablement que pour une partie de ces demandeurs d'asile. Il y a toujours une pincée un peu d'absurde qui fait la particularité du cinéma de Dominique Moll, et on la retrouve ici dans Éden. C'est le réalisateur, je le rappelle, de Lemming ou encore de Harry, un ami qui vous veut du bien. Et puis il y a une autre particularité touche Dominique Moll, qui se retrouve bien dans ce film, c'est son intérêt pour l'intimité, les paradoxes éthiques, les contradictions de chacun des personnages. Ça, c'est ce qui vous a aussi le plus séduit dans ce projet, c'est d'entrer dans la vie et dans la tête de chacun des personnages qui sont dans cette série Éden.
Bah, vous avez tout à fait raison de parler de paradoxe, parce que de toute façon, l'humanité est paradoxale. C'est compliqué. On prend une décision. On sait très bien que la vie empêchera que cette décision soit menée à bien, ou alors on changera d'avis. Enfin, c'est normal et c'est naturel. Ce qui est intéressant chez Dominique Moll, c'est que en fait, il met en exergue les paradoxes parce qu'il n'a pas la solution. Il a l'élégance de l'avouer, de l'admettre. Il y a une des histoires, enfin, toutes les histoires me touchent, mais une des histoires à laquelle je ne m'attendais pas réellement, c'est cette histoire à Mannheim des Allemands qui donc décident d'accueillir un adolescent chez eux, et ils sont très, très affables, très gentils, mais quand même, toujours en sous-texte, il y a chose où ils lui disent, attention, tu te comportes quand même bien comme on te demande de te comporter. Tu vas bien suivre les règles, malgré tout. On lui intime l'ordre, quelque part, d'accepter absolument toutes les règles de cette maison et de ne pas y déroger, sous peine d'exclusion, de mauvais jugement. Et ça, je m'y attendais pas. Oui, la famille syrienne, c'est très important. Surtout qu'en plus, c'est un autre statut, quelque part, de demande de réfugiés politiques, c'est encore quelque chose d'autre. C'est encore un autre statut qui a été très bien identifié par la plupart des gens. Je veux dire, quand on sait que quelqu'un est en danger de mort dans son pays et qui va demander l'asile politique, normal, on va lui offrir. Mais quelqu'un qui quitte son pays parce qu'il y est mal, parce qu'il y vit mal, c'est plus flou.
Et ils sont aussi rattrapés, ces familles syriennes, par leur passé, par la question de savoir s'ils ont ou pas coopéré à un moment ou à un autre dans le régime, exactement, avec le régime. Donc personne, aucun personnage n'est noir et blanc, ni cette famille hospitalière allemande, ni les réfugiés syriens, en tout cas les demandeurs d'asile. C'est une production franco-allemande sur un sujet qui a d'ailleurs divisé l'Allemagne et la France ces deux dernières années, la question de l'accueil. C'est une série européenne aussi, parce qu'elle se déplace un peu partout sur notre continent. Pour vous, la politique, la réaction qu'a eu l'Allemagne en ouvrant grand les bras à un moment au plus fort de la crise migratoire, est celle que la France aurait dû adopter aussi?
Alors vous savez, je suis donc allée rencontrer des journalistes en Allemagne. C'est la première question qu'ils m'ont posée, quasiment tous, en me disant, Angela Merkel a donc décidé d'accueillir 1 million de migrants, la France 37 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai dit, bon, alors d'accord, très bien. Or, ce que j'en pense, moi, c'est que j'aimerais pas me retrouver dans la situation de quelqu'un qui doit quitter son pays. Quand je vois comment nous on réagit, comment réagissent les gens, mais même, je vais dire, comment réagit l'Allemagne malgré tout, parce que de nouveau dans ces paradoxes, quelque chose m'a un peu blessée, c'est la fierté de savoir qu'on a accueilli 1 million de migrants. Non, il faut pas, je crois pas que quand on aide quelqu'un, on est fier. En fait, quoi qu'il arrive. Je crois pas que les justes, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient fiers de sauver des enfants juifs, des familles. Ils l'ont fait parce qu'ils trouvaient que c'était normal. Et je pense que ce qu'on perd de vue aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un se sent mal, qu'il soit malade, qu'il soit pauvre, qu'il soit poursuivi, c'est que peut-être on peut l'aider. Après, dans un deuxième temps, on verra bien ce qui se passe. Mais l'urgence, c'est quand même d'aider.
Notre invitée jusqu'à 12h30, Sylvie Testu, à l'occasion de la diffusion sur Arte, début mai prochain, de la série Eden de Dominique Moll. Après le très bel hommage rendu hier à Jacques Higelin par ses enfants et ses amis musiciens, le printemps de Bourges se poursuit avec une programmation éclectique jusqu'à dimanche. La saison des festivals est ouverte. On va faire une petite pause musicale pour fêter le retour de la musique et de l'été. Et on a choisi pour vous de vous faire écouter Blic Passy.
Wom babi kolol, babi kos, babi pu wo, babi tem, babi pel, mapil. Wom babi holos, babi pan, babi ke ne wo, babi tar, babi tem, lingen. Nyukini chelongi porol, nyukini choni yomatai, nyukini sros longi porola, mbai dibi soros, dibi lo dibi le miyo, dibi on dibi sem miyo. Dibi pos, dibi on, dibi quiz, dio. Dibi lo, dibi soros, dio. Nyukini chelo ni porol, nyukini chol ni yomatai, nyukini soros lo ni porola, nyukini chelo ni porol.
Le chanteur camerounais Blic Passy, dont le dernier album 1958 est paru début mars sur le label No Format et qui sera donc en concert demain samedi à 20h30 au printemps de Bourges. Dans ce quatrième album, Blic Passy chante dans sa langue natale, le Bassa. Et il rend hommage à une figure du militantisme de l'indépendance camerounaise, Ruben Niobe, qui a été assassiné en 58 par l'armée française, d'où le titre de l'album, 1958. Et il était surnommé, lui, M. Podol, d'où le titre de cette chanson. Sylvie Testu, d'où l'on vient? Est-ce que c'est une question qui est importante pour vous aussi? Notre trajectoire personnelle, notre histoire commune d'ailleurs aussi. Cette question des origines, elle vous travaille?
Oh bah, je pense qu'elle travaille tout le monde. Je pense que on a tous envie de connaître quelque part les fondations. On veut savoir quelle est notre histoire, la genèse. Sans ça, rien ne peut se dérouler derrière. En tout cas, il y aura des trous. Évidemment qu'on est fiers tous, j'espère, en tout cas, de ce qui nous constitue. Moi, par exemple, je viens d'une famille italienne. Et ce qui ne se voit pas forcément, Italie du Sud, mais j'en ai été très fière. J'ai écrit un livre dessus tellement j'ai trouvé ça presque héroïque quand j'ai entendu l'histoire de mes grands-parents qui étaient très taiseux, Je pense que ça, c'est un vrai problème. Eux savaient pourquoi, ce qu'ils avaient quitté, quand, comment. Moi, je ne le savais pas. Et un jour, j'ai appris qu'il était venu à vélo, qu'il avait traversé toute l'Italie. C'était un acte héroïque. Et d'un coup, on se rend compte que des gens quittent un endroit pour arriver quelque part. Regardez, nous, quand on part en vacances dans un pays où on ne maîtrise pas la langue, on connaît pas les codes, déjà on est perdu. Imaginez quand vous arrivez dans un pays pour y vivre, c'est pas qu'il faut maîtriser les codes, c'est qu'il faut comprendre toute la mécanique d'un pays. Il faut avoir beaucoup de courage. Et oui, je pense que ça met en place quelque part, et en fait on peut commencer à s'amuser et à prendre des tangentes quand quelque chose est solide à la base. Mais là, je dis ça, mais tout le monde le sait. Tout le monde court après.
Mais c'est aussi pour ça que vous devenez comédienne, que vous commencez à raconter des histoires et à vous en raconter pour répondre à cette absence de parole, vous pensez? Ça joue aussi?
Je pense que le fait de vouloir devenir comédienne, c'est aussi de ne pas vouloir choisir, en fait. Je crois que il y a une chose qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est que on a le droit de prendre des risques beaucoup plus grands quand on est à l'écran. Une faiblesse à l'écran, c'est de l'émotion. Si je n'ai pas une réponse à une question, maintenant derrière ce micro, j'ai juste pas la réponse. On fait la même chose, on la filme au cinéma. Ah, il y aurait peut-être bien matière à émotion de nouveau. De même, si je tombe dans la rue, les gens vont rigoler. Si je tombe au cinéma, il y a de l'empathie. Parce que ça soulève en fait des qualités, mais les défauts peuvent prendre toute leur place. Et ça, c'est quelque part, ça libère. Il y a un côté apaisant. On a moins besoin de jouer de rôle finalement au cinéma, étonnamment.
On parlait tout à l'heure de la coproduction de cette série franco-allemande. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait, vous, vos débuts en Allemagne. D'ailleurs, oui. Au début, vous étiez presque un espoir du cinéma allemand, sans avoir de double culture. Ça s'est arrivé par hasard avec deux projets, Marie-Sly tout d'abord et Au-delà du silence, le film réalisé par Caroline Link. Vous rebouclez un peu la boucle, finalement, avec cet Eden. Vous vous percevez, sentez comme une actrice comédienne européenne aujourd'hui. Ça veut dire quelque chose pour vous, Sylvie Testieux?
Oh oui, ça veut dire quelque chose, et puis même au-delà, parce que moi j'ai beaucoup tourné à l'étranger. Vous avez raison, j'ai commencé par l'Allemagne sans parler l'allemand. Et en fait, donc avec ce qu'on appelle des coachs qui vous apprennent la langue de façon phonétique, et vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes obligé, vous ne pouvez jouer que sur le sentiment et pas sur les mots. Et ça fait des films. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on se comprend. Et ça marche. Et là, j'ai fait un film à Cuba de Fernando Pérez. Il y avait beaucoup d'acteurs cubains autour. Ça a parfaitement marché.
Voilà, le sentiment. Alors, on parlera une fois de sentiment européen. Merci beaucoup à vous, Sylvie Testieux. Je rappelle donc que Eden, une mini-série réalisée, on dit comme ça parce qu'elle est en 6 épisodes, par Dominique Moll, sera diffusée les jeudis 2 et 9 mai sur Arte. Merci.